Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Ils sont redescendus dans la rue hier, plus nombreux encore que les vendredis précédents, sans peur et sans violence, à part quelques incidents en fin de parcours. Ils ont dit à nouveau, hommes et femmes, garçons et filles mélangés, leur fierté et leur humiliation, le rejet d'un système qui porte le masque figé d'un vieillard infirme, enfermant leurs espoirs dans un carcan d'intimidation et de corruption. Les Algériens se sont levés et le pouvoir, ce matin, pris de sidération, semble commencer à vaciller. Drôle de révolution, pacifique, émouvante, innovante, puisque les revendications ne portent pas sur l'emploi ou sur le niveau de vie, mais bien sur la nature du système qui tient le pays depuis 20 ans au moins. Drôle de révolution dont on comprend les ressorts, mais dont on voit mal l'issue. Comment évoluera cet immense mouvement populaire qui touche tout le pays et qui reste sans leader? Le camp Bouteflika peut-il encore tenir? Que fera l'armée alors que les milieux d'affaires se désolidarisent? Quel est le jeu des confréries islamistes dont l'emprise sur la société est réelle? L'économie algérienne stagne, la démographie s'envole, les jeunes tournent en rond. Quel impact sur les fragiles équilibres en Méditerranée quand les voisins arabes et surtout Paris, bien sûr, se tiennent quoi? C'est ce que nous allons explorer ce matin. Grâce à vous, Razika Adnani, vous êtes philosophe et islamologue, merci d'être avec nous. Kader Abderrahim, maître de conférences à Sciences Po. Par téléphone, depuis Alger, on va la retrouver tout de suite d'ailleurs, Amel Boubeker, vous êtes chercheuse en sociologie à l'EHESS. À Bordeaux, Pierre Vermeeren, vous enseignez l'histoire à l'université Paris 1, vous êtes un spécialiste reconnu du Maghreb, et notre ami El Mouhoub Mouhoud, qui enseigne l'économie à l'université Paris Dauphine. Amel Boubeker, vous êtes à Alger, quelle est l'ambiance ce matin?
Bonjour, d'indépendance, plus que d'une fête d'indépendance comme ça a été mentionné. Les protestations d'hier ont été bien plus importantes que celles des semaines passées, toujours avec beaucoup de détermination et de fierté d'avoir été capable de maintenir ces démonstrations pacifiques en dépit du nombre très très important. Il y a eu beaucoup de femmes bien sûr, mais aussi beaucoup de petites filles, de familles, des personnes âgées, une vraie unité dans la diversité de la société algérienne. Et puis surtout, au cœur, on pouvait remarquer une volonté de redéfinir l'Algérien en dehors des définitions du régime. Ça, c'était vraiment marquant. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'annihiler ces récits du pouvoir sur les Algériens qui ont été distillés depuis longtemps et qui consistent à dire que les Algériens sont sales et désorganisés, ce à quoi les manifestants vont répondre par le fait de ramasser les ordures, que les Algériens ne peuvent s'entendre entre eux, qu'ils sont condamnés à s'entretuer, ce à quoi les manifestants vont répondre par des slogans à l'approche des policiers en disant que policiers et peuple sont frères. Et puis, au fil des manifestations, là, depuis la troisième séquence, on voit qu'en fait, se forge un sens plus aigu en fait des demandes politiques ou bien du moins de la lecture politique des événements, avec des nouveaux slogans qui sont apparus hier. Donc, par exemple, on pouvait voir des demandes ou des mises en garde de toute interférence étrangère, notamment vis-à-vis des États-Unis.
Je vous interromps, pardon, parce que évidemment, la menace d'interférence est brandie par le régime, en tout cas dans cette lettre soi-disant écrite par le malheureux Bouteflika hospitalisé à Genève et qui, comme toujours avec ce régime, évoque la menace de chaos, de guerre civile et d'interférence étrangère. Donc l'interférence de qui en l'occurrence dans les slogans d'hier?
C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que la lecture politique des manifestants est complètement déconnectée et s'oppose sciemment à la lecture politique du régime. Là où le régime essaye de défrayer les Algériens avec une menace d'interférence et puis de chaos à la libyenne, etc. Alors, ce n'est jamais clairement défini, mais ils appellent ça dans le régime, au milieu du régime, la main étrangère. Eh bien, les manifestants, eux, répondent très précisément par le type de négociations qui sont en train de se faire entre, par exemple, les États-Unis et l'Algérie pour s'accaparer un certain nombre de ressources, et notamment les exploitations gazières et de pétrole. Et donc, les manifestants sont très conscients, en fait, de ce qui se joue et essayent, comme je l'ai dit, véritablement d'être indépendants des récits du régime, que ce soit sur la guerre civile ou sur le risque d'interférence, et d'y opposer leur propre lecture politique. Donc, on pouvait voir aussi des caricatures du personnel politique gouvernant, ça c'est aussi nouveau hier, en prison, par exemple. Donc, on voit comment, au fur et à mesure de ces séquences de manifestations, le sens politique et la lecture politique des événements se forge de manière beaucoup plus fine chez les Algériens.
Restez avec nous, Amel, si vous pouvez, quelques minutes encore au téléphone, donc en direct depuis Alger. Pierre Vermeiren, l'Algérie compte quoi, plus de 43 millions d'habitants. On a vu qu'il y a eu des manifestations hier en particulier, véritablement, dans tout le pays. Et face à ce tumulte, à ce bouillonnement, on a l'impression que le pouvoir reste quand même inerte.
Bah oui, comme vous avez dit, il est en état de sidération parce que ce qui advient paraissait impensable, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que on était dans une situation vraiment surréaliste depuis longtemps, hein. Les Algériens en ricaner et s'en désoler depuis très longtemps, depuis que le président est tombé malade en 2013. Il ne s'est plus exprimé, hein. Donc un président pendant des années d'un pays qui n'adresse aucun discours à la population.
Avec cette cérémonie véritablement surréaliste où on prête serment, où on embrasse un cadre avec une photo à l'intérieur.
Bien sûr, c'était une image, hein.
Oui, le cadre, le cerveau.
Un fantôme ou une image. C'était extrêmement humiliant. Et du coup, ben, les autorités ont fini par se persuader qu'avec le spectre de la guerre civile passée, le spectre de la guerre civile syrienne, les Algériens ne bougeraient pas et que, au fond, ben, une première campagne électorale dans le mutisme le plus complet pouvait bien en cacher une autre. Mais évidemment, l'histoire est très, est toujours innovante, toujours renouvelée. Et finalement, ce qui s'est passé en 2011 dans le reste du monde arabe a beaucoup marqué les Algériens. Il faut se rappeler du livre de Kamel Daoud qui s'appelait « J'ai rêvé d'être tunisien ». Et ben voilà, l'élève a dépassé le maître ou est en train de le faire, et évidemment le pouvoir ne s'y attendait absolument pas.
Ce que Kamel Daoud, dans un très beau papier publié cette semaine dans le magazine Le Point, appelle la paralysie de la chronologie, c'est-à-dire que c'est un régime qui a tenté de figer l'histoire de ce pays très jeune. Je crois que près de la moitié des Algériens ont moins de 25 ans aujourd'hui. Et donc le régime a tenté de figer la mémoire collective. Il y a eu la guerre d'indépendance, la guerre civile, atroce, hein, 200 000 morts dans les années 90, et puis depuis, tout doit s'arrêter. Et au fond, c'est cette digue-là qui lâche. Digue d'une mémoire qui n'est plus celle de la jeune génération.
Oui, cette histoire de la guerre d'indépendance, elle a été... il faut reconnaître que c'est une guerre considérable à l'échelle du XXe siècle, dans le monde de la décolonisation. Et finalement, Médienne et son obligé Bouteflika, qui progressivement est monté en grade, a été son brillant porte-parole mondial dans les années 70, puis a été recherché par les militaires dans les années 90 pour revenir et finalement être président et sortir l'Algérie du chaos de la guerre civile. Finalement, c'est cette histoire qui a légitimé tout un régime qui a organisé et écrit une histoire nationale officielle. Il faut dire que l'histoire de l'Algérie indépendante n'est pas enseignée dans les lycées ni dans les universités, hein. On reste sur une mythologie politique extrêmement unilatérale, dont sont exclus la plupart des historiens et des intellectuels. Et effectivement, c'est fossilisé. Alors, il se trouve que maintenant, vous savez, les générations durent, et du coup, bah, plus de 60 ans après, on a toujours les mêmes hommes, le chef d'état-major qui a 3 ans de moins que le président de la République, et qui vivait sur cet héritage. Mais évidemment, tout a une fin, et je rappelle pour terminer que à Sétif, lors de l'anniversaire en 2012, le président algérien lui-même, qui était lors de son troisième mandat, je crois, a dit à l'époque Voilà, le temps de notre génération est fini, c'est à la jeunesse de prendre le relais. Et ben voilà, il a fallu encore attendre 7 ans finalement.
Kader Abderrahim, je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. On voit que le système se fissure hein, depuis 2-3 jours avec des organisations qui faisaient partie de ce ciment et qui se désolidarisent. C'est fini, à commencer par l'Organisation nationale des Moudjahidines, c'est-à-dire les anciens combattants de la guerre d'indépendance.
Absolument, ça c'est un moment symbolique très important parce que c'est l'une des organisations satellites du FLN, il y en a de nombreuses. Tout est segmenté, il faut comprendre, faut bien se souvenir que c'est un régime très stalinien. Hein. Donc la jeunesse, les paysans, les femmes, les syndicats et évidemment les anciens combattants. Donc l'ONM qui est quand même un des piliers du régime qui fait défection, c'est un moment extrêmement important. On voit que le bateau est en train de prendre l'eau de toutes parts. On a vu hier à Oran le maire FLN de la ville retirer son soutien à Bouteflika et prendre part aux manifestations. Donc je crois que ces gens-là sont aussi dans un calcul politique, parce que leur préoccupation principale, vitale, c'est d'assurer la pérennité du régime. Et je crois que tout l'enjeu des batailles internes, parce qu'on est dans un système extrêmement opaque, tout l'enjeu des batailles internes que l'on ne voit pas aujourd'hui, c'est de tenter de trouver un Gorbatchev à l'algérienne, alors que certains caciques, eux, seraient plutôt favorables à nous sortir un Poutine. Et là, alors évidemment, ça deviendrait très très risqué et très dangereux.
Poutine, un ancien du renseignement, comme on sait, on a vu hier ou avant-hier que l'association des anciens du renseignement, qui est quand même le troisième pilier...
Absolument, le MAG, oui.
Donc, le je sais pas comment on appelle ça officiellement...
C'est le MAG, le mouvement de l'armement et des liaisons générales
durant
la guerre
de
l'indépendance.
Eux aussi, on dit, bon, Bouteflika, c'est fini. Et même le syndicat unique, donc l'Union Générale des Travailleurs Algériens...
Le GTA, oui.
Qui commence à flotter.
Absolument. On voit bien, là encore, que cette paralysie interne du régime par la faute, la responsabilité, faudrait pas totalement l'absoudre du clan Bouteflika, conduit l'Algérie dans une impasse politique et institutionnelle. Et par ailleurs, je pense qu'il est important de souligner la déclaration lue il y a 3 jours qu'on prête au président, comme vous l'avez si bien dit, est, à mon avis, un point d'orgue et on est en train de dépasser quelque chose de l'ordre du dévoiement des institutions. C'est-à-dire on ne sait pas qui parle à la place du président qui est le détenteur de la légitimité, même si elle est contestée, mais il est le détenteur. Et là, ça devient extrêmement grave, parce que signifie, quelle valeur on va pouvoir continuer à accorder à la parole de l'Algérie si tout le monde, dans l'ombre, continue à parler à sa place, à lui faire dire, ou à lui faire écrire, ou à lui faire signer des choses. Ça va devenir inquiétant pour les partenaires même de l'Algérie.
Retournons à Alger, vous rejoindre par téléphone Amel Boubekeur. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sociologie à l'EHESS. On a vu que le seul candidat qui s'est déclaré et qui est encore en lice, qui est un général à la retraite, a été, si j'ai bien compris, chassé de la manifestation d'hier. Donc un signe, en quelque sorte, que les manifestants ne veulent aucune récupération politique.
Oui, écoutez, comme je le disais en introduction, il y a effectivement, après avoir demandé le départ de Bouteflika, maintenant l'annulation des élections, il y a comme ça une maturation politique de demande qui se fait dans la chair de la foule, en fait, par les slogans, par les échanges informels que les gens ont entre eux avec les policiers, etc. Maintenant, il y a 2 questions importantes pour envisager éventuellement cet après et puis une potentialité de sortie de crise. La première question, c'est le rôle de pression des manifestations. Ça, je crois que vous parliez des défections des organisations satellites et de soutien au régime. Je crois que le rôle de pression des manifestations est manifeste. Une grande inconnue aussi semble avoir été résolue, puisque l'armée semble avoir entériné, même de manière tacite, le fait que les manifestations ne seraient pas réprimées. Bon, c'est aussi dû aux demandes de ses partenaires internationaux, des partenaires internationaux de l'armée, qui sont complètement rétifs à l'idée de voir l'Algérie s'installer dans la violence, et puis à leur volonté qu'elle puisse conserver son rôle stabilisateur, selon l'expression consacrée, dans la région. Et puis, il y a une deuxième question pour envisager une sortie de crise, c'est la traduction de cette mobilisation dans une culture institutionnelle officielle. Vous parliez de la manière dont le candidat a été chassé. Il faut savoir que jusqu'à présent, les manifestations ont tenté jusqu'ici de se départir de la mascarade de vie officielle des élections, des partis. Vous savez, ces élections sans compétition, organisées par le haut, des partis d'opposition qui en réalité n'en sont pas. Donc, là, c'est ce qu'ont réussi à faire les manifestants, à organiser leur propre vie ou leur propre univers politique. Maintenant, la question, c'est de savoir comment cette mobilisation va être reconnectée aux institutions officielles, aux institutions qui existent. Parce que dans 3 mois, je ne pense pas que les Algériens continueront à manifester et que la manifestation sera le seul moyen de pouvoir influencer la transition qui s'annonce. Donc la question maintenant, c'est de voir comment vont s'organiser au niveau local des initiatives pour réfléchir, et c'est ce qui est en train de se faire, par exemple, sur la désobéissance civile, sur des initiatives de grève générale, sur la constitution d'une plateforme, sur la constitution de conseils locaux où les gens discutent et puis prennent en charge, par exemple, la question des budgets dans les mairies, etc. Donc il va falloir être très attentif, en fait, à cette reconnexion entre culture populaire, manifestation qui, comme je le disais, demande à être indépendante du régime et de sa mascarade de vie officielle, et puis sa traduction dans les institutions pour pouvoir comprendre quelle transition on va pouvoir avoir.
Mais donc cela veut dire qu'il faut qu'une forme d'encadrement émane de ce mouvement lui-même. Si les manifestants ne se reconnaissent en rien dans le système tel qu'il existe. Donc il faut qu'il y ait des leaders qui émergent et un minimum d'organisation.
Alors, on a l'expérience non seulement de la Tunisie, avec justement la manière dont les partis politiques ont quelque part pris en otage le processus de transition. Je me souviens, en 2011, à Tunis, je voyais ces jeunes des régions d'intérieur en Tunisie dresser leurs tentes au bardo, etc., et avoir beaucoup de foi en la capacité d'organiser un nouveau modèle représentatif, un nouveau modèle de démocratie délibérative et directe, et puis de la manière dont finalement la transition a plus favoriser les partis avec le système d'une assemblée constituante. On a vu aussi en Europe comment Podemos ou Occupy aux États-Unis avaient finalement ses ploufs dans le cas d'Occupy parce que justement il n'y avait pas eu de traduction, il n'y avait pas eu de d'élargissement de ce mouvement au reste de la population. Mmh. Les Algériens sont très conscients de ça en fait. Et donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer et comment cela va se construire, mais il est certain que cela se fera beaucoup plus par le biais de personnalités respectées. On a beaucoup appelé par exemple, quelqu'un comme Mustapha Bouchachi, le président de la Ligue des droits de l'homme, à prendre en charge, même s'il l'a refusé, lui, à prendre en charge ce type d'initiative, que par les partis d'opposition ou par des leaders déjà connus, c'est évident.
Merci mille fois d'avoir été avec nous en direct d'Alger, Amel Boubekeur. Madame Adnani, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes philosophe, islamologue. On voit que cette espèce de bouillonnement démocratique a dépassé les peurs sans cesse mises en avant par le régime lui-même, et notamment la peur des islamistes, parce que la guerre civile, qui est le dernier grand traumatisme des années 90, plus de 200 000 morts, on sent que cette peur-là aussi, d'une certaine manière, a été surmontée.
En effet, le traumatisme des années 90 reste dans la mémoire des Algériens. Ils l'ont jamais oublié.
Dans chaque famille, en fait.
Dans chaque famille. Et évidemment, et le pouvoir l'a bien utilisé depuis des années pour justement tenir cette population. Il a toujours menacé que le soulèvement pourrait emmener à une autre guerre civile. Donc les Algériens ont toujours vécu avec cette peur et c'est légitime. Mais aujourd'hui, évidemment, ils ont démontré qu'ils ont mûri et que ces années-là, les années noires, comme on les appelle, avec les expériences malheureuses des autres peuples, le peuple syrien, le peuple égyptien et d'autres, toute cette expérience a fait qu'ils ont acquis une maturité aujourd'hui, une maturité politique extraordinaire et qui fait qu'ils ont manifesté sans aucun mot qui est relatif ou qui renvoie à la religion.
Alors donc, le vendredi, c'est le jour de la prière. Donc comment comment est-ce que ces manifestations ont été déconnectées du calendrier religieux, enfin.
Ce n'est pas seulement le jour de la prière, c'est aussi le week-end. Oui. C'est comme en France, on manifeste plutôt les dimanches. C'est normal que les Algériens...
Oui, chez nous, c'est le samedi, hein, vous avez remarqué.
Oui, les samedis, c'est normal. Je parle des manifestations algériennes le dimanche à Paris. Oui. Donc, c'est normal qu'ils manifestent le vendredi, je dirais. Mais ce qui s'est passé justement hier, qui est très intéressant, c'est que les manifestations ont commencé avant la prière. Voilà encore une autre fois une volonté de détacher justement ce mouvement de tout caractère religieux. Et c'est très important. Donc nous sommes devant un mouvement démocratique, un mouvement qui est politique et social, mais pas du tout religieux. Donc c'est un mouvement en fait qui sépare ce qui relève de la politique et ce qui relève de la religion.
Pour bien comprendre la manière dont la mémoire de ces années atroces de guerre civile, donc après des élections qui avaient vu la victoire du fils, donc du parti islamiste de l'époque, mais ensuite le régime a fait en fait amnésie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de poursuite. Comment est-ce que les islamistes ont en fait se sont associés au pouvoir en prenant en main, d'une certaine manière, l'organisation sociale en Algérie et en imprégnant quand même très très profondément la société algérienne.
La société algérienne reste très attachée à la religion, on ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, il y a comme je viens de le dire, une maturité politique. Les gens ont suivi ce qui s'est passé durant toutes ces années. Et en effet, le lien entre les islamistes et le pouvoir a fait aussi que les islamistes ont perdu leur crédibilité auprès de la population.
Mais ils tiennent quand même l'éducation. En gros, la mosquée d'Alger est la troisième mosquée la plus énorme du monde après celle de la Mecque et de Médine. Je veux dire, il y a un affichage islamique très puissant.
Comme je viens de le dire, ça reste une société qui est attachée à sa religion, on ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que ce mouvement-là, que nous voyons dans les rues d'Alger et les autres villes d'Algérie, un peu partout, c'est un mouvement qui n'a pas et qui ne prend pas de caractère religieux. C'est un mouvement qui est politique, qui veut un changement politique, un changement du système, pas seulement de Bouteflika, comme on vient de le dire. Bouteflika ne parle plus, c'est d'autres personnes qui parlent en son nom. Donc on est là devant un mouvement vraiment politique, sans caractère religieux. Donc il y a vraiment une séparation entre ce qui est politique et ce qui est religieux aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc je pense qu'on est devant le commencement d'une nouvelle société algérienne. Je dirais qu'il y aura un avant 22 février 99 et un après 22 février 99, la société algérienne, je pense qu'elle ne sera plus ce qu'elle était jusqu'à 22 février 2019. Je voudrais juste ajouter une chose. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui s'est trompé au sujet de cette population. Beaucoup d'intellectuels se sont également trompés. Et car on a toujours présenté cette société comme une société imprégnée de la religion, islamisée, qui a peur, qui ne bouge pas, corrompue. Voilà. Donc aujourd'hui, cette population a surpris tout le monde. Elle a démontré qu'il y a quelque chose qui s'est fait en profondeur durant toutes ces années et qui est tout à fait extraordinaire.
Pierre Vermeeren, êtes-vous d'accord? On s'est beaucoup trompé sur l'espèce de paralysie imposée néanmoins par un système extraordinairement compact et obscur et mystérieux. On a entre les trois piliers du système, pour aller vite, donc le clan familial, l'armée, les services de renseignement et un quatrième qui est quand même cette oligarchie des milieux d'affaires.
Oui, alors, si vous permettez, juste avant de vous répondre, pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit avant, Effectivement, on ne peut pas transférer la situation tunisienne sur la situation algérienne, parce que le parti qui a pris le pouvoir finalement, qui a été élu en Tunisie, Ennahda, était un parti d'opposition qui n'avait jamais dirigé, jamais participé aux affaires, qui avait été persécuté par le régime, des dizaines de milliers d'hommes avaient été jetés en prison ou exilés. Et finalement, il est apparu, il est ressorti au lendemain de la révolution et il s'est imposé. Mais en Algérie, vous n'avez pas ça, parce que le FIS d'abord a été démantelé, les islamistes appartiennent à plusieurs organisations, et en plus ils ont été très décrédibilisés par la violence du djihad des années 90. Vous voyez, la population reste quand même traumatisée, en tout cas pour les adultes, par cette histoire. Et donc redonner les clés demain à des gens qui ont montré des véritables horreurs, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça n'enlève rien au conservatisme de la société par ailleurs. Bon, alors maintenant, pour revenir un mot sur ce système très compact, comme vous dites, effectivement, très opaque, il faut dire, hein. Très compact et très opaque, parce que d'abord, c'est un État très solide qui est sorti de la guerre civile avec un appareil militaro-policier considérable. Les services de renseignement étaient déjà très puissants, ils sont nés à l'époque de la guerre d'Algérie, ils se sont développés sous Boumédienne et finalement ils ont tenu l'État, ils ont écarté les opposants, ils ont réprimé à tour de bras et ils ont gagné cette guerre civile. Bon. Et donc ils se sont, non seulement ils étaient très puissants, mais ils ont été légitimés par la guerre civile, par la guerre d'Algérie d'abord, puis par la guerre civile. Donc deux légitimités qui ont conduit effectivement une sorte de droit de gouverner presque de manière inconditionnelle ce pays. Les Algériens s'en sont habitués, s'en sont désolés, s'en sont désespérés, tout en reconnaissant cette omniprésence. Et à l'intérieur de ça, ou plutôt à la tête de ça, au fil de sa très longue présidence, le président Bouteflika et ses proches, notamment son frère, les chefs militaires qu'il a nommés, ont réussi effectivement à contrôler finalement cette machine qui paraissait incontrôlable. L'ancien chef a été écarté et tous les hommes aujourd'hui qui sont à la tête de l'appareil, mais vraiment à la tête, au plus haut sommet, dans l'entourage du président Bouteflika et de son frère, avaient l'illusion de tenir la totalité de cette société à travers ces appareils. Sauf qu'évidemment, la société, elle est beaucoup plus compliquée, elle est beaucoup plus grande, 42 ou 43, 44 millions d'habitants, comme vous avez dit, un très grand pays, et puis beaucoup d'humiliations, et on voit aujourd'hui que finalement, il y a une illusion à penser qu'on peut tenir un pays uniquement avec un appareil extrêmement puissant, aussi puissant soit-il.
El Mouhoub Mouhoud, vous enseignez l'économie à l'université Paris-Dauphine. La manière dont le régime s'est aussi appuyé sur des milieux d'affaires extrêmement proches et qui, depuis quelques jours, se désolidarisent, en tout cas pour quelques gros patrons considérés jusqu'ici, et notamment par les manifestants comme étant les grands bénéficiaires du système, cette évolution-là aussi est spectaculaire.
Oui, parce qu'en fait, l'origine du secteur privé en Algérie est assez compliquée. Elle est récente d'abord, elle est liée aux programmes de privatisation qui ont eu lieu dans les années 80, et les entreprises publiques ont été, pour certaines d'entre elles, cédées. Ensuite, on a laissé effectivement se développer un entrepreneuriat extrêmement proche du pouvoir politique. Ça, c'est le premier cercle des entreprises. C'est en quelque sorte ceux qui ont des liens privilégiés et qui reçoivent des privilèges en échange dans une relation qui est une relation de vassalité en même temps. Et donc, ça tenait tant que le régime autorisait à la fois une croissance, une redistribution de la rente et un maintien du capital sécurité. Le capital sécurité sur lequel l'État et le régime en particulier a beaucoup joué, puisque depuis la loi de concorde nationale, à la fin des années 90, la violence s'est arrêtée et donc effectivement ce capital sécurité a été jusqu'au bout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont pas vu venir ces événements récents, c'est qu'ils pensaient que ce capital sécurité était suffisant. Or, il s'est érodé. Il s'est érodé face à ces besoins extraordinaires. Donc, pour revenir aux relations avec les entreprises, il y a ce premier cercle d'entreprises qui sont extrêmement en osmose avec l'État, avec les pouvoirs en particulier en place. Et puis, vous avez un second cercle dans des secteurs très différents, le numérique, l'informatique, la pharmacie, etc., qui est moins connecté et qui subit une sorte de plafond de verre. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est en fait la fracture de ce pacte. de ce pacte entre les entreprises vassalisées et l'État et le pouvoir, en particulier quand on regarde au sein du forum des entreprises, qui est l'équivalent du MEDEF algérien, vous avez maintenant des entreprises, des chefs d'entreprise qui se désolidarisent du fait de cette réitération du cinquième mandat du président, eh bien, se sont désolidarisés du pouvoir. Donc, en effet, on a une crise à la fois, plusieurs pactes qui se sont rompus, le pacte social avec les jeunes, celui-là, il s'est rompu depuis longtemps, et c'est pour ça que je dis que c'est un mouvement long, et donc je n'étais pas surpris de ce qui est arrivé là. Ensuite, il y a ce second pacte qui est le pacte avec les entreprises vassalisées. C'est celui-ci qui est en train d'exploser et qui laisse effectivement la possibilité à des réarrangements et à la poursuite d'ailleurs de la contestation.
Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire. Vous êtes intéressé, vous, à travers divers organes de presse, sur le cœur même du système, à commencer évidemment par le clan familial, deux frères cadets, une sœur, et surtout le plus jeune frère, donc Bouteflika.
Oui, et d'ailleurs là, ne trompe pas quand elle crie ni Bouteflika ni Saïd, car le frère cadet, et c'est celui qui tient le clan présidentiel. Officiellement, il est conseiller spécial au sein du palais El Mouradia. En réalité, nous dit le Huffington Post Maghreb, il gère depuis le 27 avril 2013, date de l'AVC présidentiel, cette situation de délégation de pouvoir non écrite. Saïd Bouteflika est un universitaire, ancien professeur d'informatique. Il est devenu, nous dit l'Observateur d'Alger, le mentor du système en place dans sa quête de pérennité. C'est lui qui a pris l'habitude de recevoir les militaires, les hauts fonctionnaires ou les hommes d'affaires. Pourtant, Saïd Bouteflika est aujourd'hui en perte de vitesse, estime le Huffington Post Maghreb, qui s'interroge face au déclin physique avéré de son frère, aurait-il pu éviter cette hémorragie du pouvoir de la maison des Bouteflika? Alors, selon le site d'information, Saïd n'a pas osé imposer un successeur à son frère Abdelaziz. Résultat, le voilà sans autre plan que de faire réélire son aîné, estime le site, qui poursuit, c'est-à-dire avec un plan porteur au mieux de paralysie politique, au pire de collapsus complet du clan Bouteflika.
Le seul homme qui s'exprime depuis que les manifestations ont pris une telle ampleur, c'est le chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense, le général Salah.
Oui, et un homme se distingue dans cette période troublée, c'est le chef d'état-major Hamed Gaïd Salah. C'est lui qui s'affiche en trille à la télévision et il a réussi ces dernières années à faire le vide autour de lui en mettant à la retraite plusieurs généraux. Alors selon le Huffington Post Maghreb, il est maintenant presque acquis que l'homme pivot de la décision pour la prochaine présidentielle, dans le cas toujours bon à rappeler de non-interruption de la colère populaire dans l'intervalle, eh bien c'est le général de corps d'armée Hamed Gaïd Salah. Mais depuis, le peuple a décidé de faire entendre sa colère et le patron de l'armée, qui est aussi le vice-ministre de la Défense nationale, appelle au calme et sans doute attend-il son heure. Le temps, en tout cas, lui est compté, car à 79 ans, Ahmed Saïd Gala n'incarne pas la relève.
Alors, il ne reste plus qu'un candidat qui veut se présenter à cette élection. Mais il y en a un autre assez farfelu qui s'est fait beaucoup remarquer sur Internet, Rachid Nekas, qui a été interpellé à Genève parce qu'il tentait de pénétrer dans l'hôpital universitaire où est soigné le président algérien. Il comparaît d'ailleurs aujourd'hui devant le procureur à Genève.
Oui, le journal El Watan parle même d'un phénomène Nekaz, car ce franco-algérien qui a renoncé à son passeport français fait un tabac dans ses meetings électoraux. À Kenchala, Batna ou Tebessa, à l'est comme à l'ouest, là où il passe, il laisse son empreinte du jamais vu, écrit El Watan, qui se demande comment cet homme, qui n'a pas de parcours politique ou militant, qui n'a pas de parti politique et qui a vécu toute sa vie en France, peut susciter un tel engouement. Rachid Nekaz est un entrepreneur qui a fait fortune dans l'immobilier. Il est surtout devenu célèbre depuis une dizaine d'années en France et dans plusieurs pays européens pour son action spectaculaire qui consiste à payer les amendes infligées aux femmes, celles qui portent le niqab, et ça lui vaut une entrée fulgurante dans le cœur des Algériens, nous dit El Watan. Surtout, ce quadragénaire sait utiliser les réseaux sociaux. Il a près d'1,5 million de personnes qui le suivent aujourd'hui sur sa page Facebook. Pourtant, prévient le journal algérien, sa candidature risque de ne pas aller très loin. Un amendement de la Constitution stipule en effet que pour être éligible à la magistrature suprême, le candidat doit avoir résidé depuis au moins 10 ans en Algérie. Il faut être un bouffon pour ignorer cette condition, ou alors très intelligent pour utiliser cette opportunité électorale et viser d'autres objectifs, comme par exemple se construire une base populaire en attendant un jour que soient supprimées ces conditions, conclut le journal El Watan. En tout cas, selon le site Algérie Focus, la jeunesse a trouvé son représentant. Qu'on le veuille ou non, Rachid Nakaz fait l'unanimité chez les jeunes.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Kader Abderrahim, ce candidat, si j'ai bien compris, il a envoyé son cousin garagiste signer à sa place, donc il s'est quand même beaucoup déconsidéré, parce que ce qui est très frappant, et notamment dans les slogans de ces manifestations, c'est quand même l'attachement à une certaine forme dans tout cela. Je veux dire, ce n'est pas l'anarchie que demandent les manifestants.
Ah non, il y a du formalisme, il y a le respect des formes, comme vous dites, et puis il y a cette volonté de faire la démonstration. On n'est pas des voyous, on se tient bien, on formule des revendications réalistes et on veut entrer en discussion, en négociation avec ceux qui gouvernent. C'est la preuve d'une grande maturité politique qui est très surprenante. En tout cas, moi, je suis très surpris. Ça fait des années que tous les chercheurs sur le terrain algérien disent l'équation inconnue, c'est la population, c'est la société.
Et mais pourquoi tellement inconnue? Parce qu'elle était tellement difficile à pénétrer par un système de surveillance quand même qui rendait les
choses... Je ne crois pas que ce soit la police politique qui soit parvenue à cela. Je crois qu'il y a eu deux évolutions parallèles. Nous avons beaucoup regardé, probablement nous chercheurs, un peu trop l'évolution du système, avec l'opacité dont on parlait tout à l'heure, et finalement assez peu regardé ce qui se passait, si je peux me permettre de citer ici Marx, qui disait
Mais vous êtes à France Culture
qui disait souvent, c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Et donc, souterrainement, cette société a évolué, elle a avancé vers cette modernité que le régime lui refusait. Et on le voit, c'est une génération 2.0 ou 3.0, je ne sais plus où on en est.
Avec beaucoup d'humour en plus.
Avec un humour très caustique. Et cette manière d'utiliser les réseaux sociaux à son avantage pour contourner les difficultés que met en place notamment la police pour interdire les manifestations et les rassemblements est très habile. Et donc, cette évolution de la société, moi je trouve ce que je vois, ce que je perçois à distance, c'est pour moi l'émergence d'une nouvelle conscience nationale, parce que finalement, après l'indépendance de l'Algérie, en réalité, aujourd'hui, on va assister à la libération d'une société. C'est un momentum historique très important, fondateur, qui va probablement permettre, à la société de se réconcilier, parce que c'est vrai qu'elle a été assez divisée, instrumentalisée dans les années 90 et aussi avant. Et encore une fois, les revendications qui sont formulées sont d'une grande maturité politique et on les voit évoluer au fil du temps. Ça a été, on est contre le cinquième mandat. Puis maintenant, on rejette le système. Et puis maintenant, depuis hier, on entend des revendications précises sur le plan politique. Une transition démocratique, la négociation, le compromis, la discussion. Et face à cela, un régime autiste qui lui est paralysé parce que, évidemment, il ne s'attendait pas à une mobilisation d'une telle ampleur et d'une telle constance.
El Mouhoub Mouhoud, ce qui est tout à fait singulier aussi, et notamment par rapport à ce qui se passe dans notre propre pays depuis des mois, c'est qu'on n'entend aucune revendication d'ordre économique.
L'élément déclencheur n'est pas la situation économique directement. C'est précisément l'arrogance de la provocation qui a consisté à renouveler un cinquième mandat alors que la population espérait autre chose. Mais les éléments clés, si vous voulez, de la crise économique, du retournement depuis 2013 du prix du pétrole, sont là et ce scénario de rupture était prévisible. Il y a effectivement non seulement un taux de chômage des jeunes, un taux de chômage des diplômés très élevé, un taux de participation de la force de travail que l'Algérie partage avec les autres pays de la région, Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui est l'un des plus bas du monde, des situations effectivement d'inégalité territoriale très forte. Donc tous les éléments qui mettent les jeunes dans des situations d'absence de perspective étaient déjà là depuis fort longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, ajouter à cette, ce que j'appellerais cette provocation, vous avez l'effet de déferlement, car pour moi, il s'agit d'un processus de continuité. Il n'y a pas eu d'arrêt dans les protestations depuis longtemps, y compris la première rupture de 1988.
Mais on est aussi dans un cycle économique très, très différent, dans une économie de rente qui dépend entièrement des cours du pétrole et du gaz, surtout.
Alors le cycle économique qui a permis de relancer la machine, c'est le boom pétrolier des années 2000. Et ce boom pétrolier des années 2000 a permis en effet de dépenser beaucoup en dépenses sociales, de subventions aux biens de consommation, d'aide à l'emploi très très bonifiée, à l'entrepreneuriat de masse, etc. Donc il y a eu toute une série de dépenses. Un fonds de recettes d'hydrocarbures a été mis en place, mais au lieu d'être utilisé de manière contracyclique, c'est-à-dire d'être utilisé quand la crise arrive et d'être épargné et quand au contraire le boom est là, eh bien il a été utilisé au contraire de manière procyclique, c'est-à-dire que le moment du plus haut de la croissance permise par les hydrocarbures, vous avez eu une quasi-dilapidation de ce fonds de recettes d'hydrocarbures. Alors ensuite, avec le retournement de 2013, les réserves de change ont chuté de moitié entre 2014 et 2016, et bien que la poursuite de l'achat de la paix sociale peut continuer, ce n'est pas le Venezuela ici, eh bien les marges de manœuvre sont devenues beaucoup plus faibles, de sorte que les jeunes, en effet, qui sont diplômés, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits aussi dans l'éducation, dans la santé, même si la qualité s'est aussi dégradée, et ces jeunes en masse, produits par le système d'éducation de l'enseignement supérieur, se retrouvent dans deux situations, soit déclassés dans des emplois dans le secteur informel, soit acculés à l'émigration forcée. Or, l'émigration est devenue extrêmement compliquée, donc les gens sont assignés à résidence, en particulier dans les campagnes, les zones rurales ou les villes un peu moins économiques, moins denses que les grandes agglomérations. Et comme le coût du logement est exorbitant à Alger, où on pourrait éventuellement trouver de l'emploi, ou à Oran, les jeunes ne peuvent pas y accéder parce que ce qu'ils gagneraient en termes de rémunération, eh bien ils le perdraient en termes de coût du logement. Donc on a une situation qui, malgré les efforts qui sont considérables en matière de dépenses sociales, de dépenses d'infrastructures, de logements, etc., eh bien on a une situation qui a été la poursuite finalement de l'État rentier, celui qui consiste à voir affluer les recettes et les revenus des hydrocarbures vers l'État et ensuite distribuer cette rente de manière plus ou moins clientéliste, de manière plus ou moins discrétionnaire et non pas de manière rationnelle, au sens où les réformes qui étaient prévues, en particulier celles de 2015-2017, ont été reporté sine die avec une procrastination qui consistait à regarder le calendrier d'ici 2019. Et ce report des réformes sine die, eh bien, a été l'un des facteurs aussi qui ont aggravé la situation.
Razika Adnani, vous nous expliquez fort bien tout à l'heure à quel point on n'a pas compris ce travail en profondeur au sein de la société algérienne et singulièrement au sein de cette jeunesse. Je lisais quelque part qu'il y a eu en un an quand même 16% de plus de diplômés qui ont tenté de quitter l'Algérie, qui sont parvenus d'ailleurs, des diplômés, tellement la situation est figée pour cette génération.
En effet, la situation a été figée, mais cela ne veut pas dire que la société ne bougeait pas du tout de l'intérieur. Moi, personnellement, quand j'allais à Alger, enfin, je suis allée plusieurs fois, j'ai remarqué quand même qu'il y avait un changement au niveau de la jeunesse, notamment.
Mais une jeunesse, et notamment des filles diplômées, le taux d'emploi des femmes, enfin c'est vrai, dans tous les pays arabes d'ailleurs, est extrêmement bas, il est singulièrement bas en Algérie, et pour les garçons aussi. Il y a un chômage qui frappe singulièrement ces catégories qui, comme l'expliquait El Mouhoub, ont néanmoins bénéficié d'investissements importants dans le secteur éducatif.
Et ce sont tous ces problèmes-là qui ont poussé aujourd'hui la population à sortir et à chercher le changement et à vouloir le changement. Donc les jeunes, il y avait des problèmes, évidemment, il y a toujours des problèmes, mais cela ne veut pas dire que ces problèmes les a empêchés de vouloir changer et de changer eux-mêmes et de voir l'avenir et de vouloir un autre avenir pour l'Algérie. Donc ces problèmes-là font partie, ce sont des éléments qui ont permis cette population d'aller vers cette maturité. Et je voudrais aussi ajouter que le pouvoir lui-même a participé à cette maturité. Comment il a participé? Parce que il a toujours rappelé aux Algériens que si il bougeait, il y avait deux facteurs, la violence d'une part et l'islamisme de l'autre. Les Algériens, ils ont très bien compris le jeu. On va faire une révolution sans violence, sans islamisme, tout simplement. Donc voilà, le rempart était la violence, la guerre civile et l'islamisme. Et toute cette génération qui a bien compris le système, aujourd'hui, elle réclame en tout cas, le mouvement qu'on voit aujourd'hui, les manifestations dans les rues aujourd'hui sont des manifestations pacifiques et ce sont aussi des manifestations sans caractère religieux, sans revendication religieuse, et ça, c'est extraordinaire. Et je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que les Algériens ont fait une révolution en 88. Cette révolution a été avortée d'une manière douloureuse, d'une manière...
Enfin, une révolution dans les urnes, il y avait des élections législatives.
Avant déjà les urnes, ils sont sortis dans les rues quand même, ils ont manifesté, ils ont réclamé une Algérie moderne, une Algérie aussi, ils ont réclamé la démocratie. Elle a été avortée. Aujourd'hui, il est temps tout simplement de la mener à terme, de mener à terme le travail qu'ils ont commencé à ce moment-là.
Kader Abderrahim, est-ce qu'on n'est pas tous pris dans une espèce d'émotion et peut-être trop optimiste?
Oui, vous avez raison. Il faut rester prudent. D'abord parce qu'on est enseigné par ce qui s'est passé en 2011, donc on a un tout petit peu de recul maintenant, donc il faut rester prudent et regarder les événements avec une distance pour pouvoir les relativiser, mais surtout essayer de ne pas se tromper sur l'analyse. Je voudrais quand même souligner un point parce qu'on revient souvent là-dessus. On peut pas dire que la société algérienne a été une société atone dans le trauma post 2000, pour faire court, les années, la décennie noire. Ils n'ont jamais cessé de manifester. Ils n'ont jamais cessé de revendiquer. La difficulté de se faire entendre, elle est due, c'est la responsabilité du président Bouteflika qui a tout fait pour casser les intermédiaires dans la société, donc pas de syndicats, pas d'organisation possible. Donc on s'est retrouvé dans une culture émeutière, pas dans une culture syndicale ou politique, mais émeutière. Et c'est la responsabilité directe de l'actuel président que d'avoir conduit le pays à cette situation, puisque l'État est en permanence confronté à la population sur tout un tas de sujets, évidemment très prosaïques, moins spectaculaires que ce que l'on observe en Algérie depuis quelques semaines. L'adduction à l'eau, la distribution de logements sociaux, des équipements collectifs, etc. Donc c'est une société qui est restée toujours très dynamique. C'est pour ça que je ne crois pas...
On a vu d'ailleurs, pardon, je vous interromps, des manifestations contre l'exploitation du gaz de schiste.
Absolument, dans la région de Ouargla, dans le sud. Absolument. C'est pour ça que je ne crois pas à cette idée que les Algériens ont été, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, terrorisés ou paralysés par la période post-guerre et post-décennie noire.
Le calcul du régime, quand même.
C'était le calcul et c'était le discours. Et nous-mêmes avons une certaine responsabilité parce qu'on l'a relayé, je fais mon mea culpa. Et c'était faux. Et donc je crois que cela a contribué aussi à former des cadres, à former une génération qui est aujourd'hui est capable de s'organiser et de dire... On a un service d'ordre, on a des jeunes qui, c'est quand même extraordinaire, quand vous passez à Alger derrière les manifestants, il n'y a pas un papier, il n'y a pas un détritus. Et on voit les photos, les vidéos qui circulent. Ça aussi, c'est la preuve de cette maturité collective. Oui. Et c'est pour ça que je le souligne aujourd'hui, pour dire que probablement nous assistons à une nouvelle conscience nationale et collective qui est en train de s'organiser.
Alors, il faut voir ce qui va se passer la semaine prochaine.
Voilà.
Parce que mercredi...
Demain déjà, parce qu'il y a la grève générale.
Alors, demain, grève générale. Alors, expliquez-nous ça.
Alors, c'est un momentum, là aussi, extrêmement important. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante qu'on assiste à un mot d'ordre de grève générale depuis la guerre d'Algérie.
Lancé par qui, le mot d'ordre?
Lancé par les organisateurs sur Facebook. Alors, ça aussi, peut-être je pense qu'il serait important d'ouvrir cette parenthèse. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Tout est parti de manière anonyme sur les réseaux sociaux. On peut pas ne pas écarter l'idée qu'il y ait des gens qui ont intérêt. On évoque régulièrement le nom de l'ancien chef de la police politique qui a été écarté, mis à la retraite d'office, qu'on appelle le général Toufir.
Le fameux.
On ne peut pas totalement l'écarter, qui a gardé des réseaux importants et influents dans le pays et singulièrement à Alger. L'appel, le mot d'ordre de grève générale est un moment important. Je pense qu'il va être massivement suivi. C'est la première fois. Ça aussi, toujours la référence à l'histoire de l'Algérie et à l'histoire de cette guerre qui pèse sur les consciences de manière intuitive ou consciente, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. C'est la première fois depuis la bataille d'Alger qu'on a un mot d'ordre de grève générale. Donc, je crois que le régime, il va être là, confronté à lui-même. C'est comme, je ne vais pas faire de freudisme là, mais on lui tend ce miroir. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va se comporter comme les parachutistes du général Massu et de force demander aux commerçants d'ouvrir? Ou est-ce qu'il va continuer à observer la situation en attendant d'avoir trouvé en interne une véritable solution politique, car il s'agit évidemment pour lui de se sauver et de tenter de sauver l'Algérie.
On sait aussi que le Conseil constitutionnel doit se prononcer mercredi sur les candidatures. Oui. La plupart des candidats se sont retirés. Il y a des pressions donc sur ce général à la retraite qui a été chassé de la manifestation d'hier pour qu'il se retire aussi. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que le Conseil de l'Ordre des médecins a publié un communiqué pour mettre en garde, parce que pour que la candidature du président sortant, si j'ose dire, soit validée, il faut un certificat médical sur son aptitude.
Contresigné par 3 médecins. Absolument. Et c'est important.
D'ici mercredi.
Et comme ils ne peuvent pas l'ausculter puisqu'il est à l'étranger, ça va être assez compliqué. Deuxièmement, on parlait tout à l'heure de formalisme. Bouteflika n'aurait jamais dû être élu président de la République si on respectait la loi. La loi exige que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être né en Algérie. Ce qui n'est pas son cas puisqu'il est né à Oujda, dans la ville frontalière au Maroc. Donc même ce formalisme-là n'est plus respecté par les institutions elles-mêmes. Donc en toute logique, le Conseil constitutionnel pourrait enfin faire son travail et déclarer invalide la candidature. Mais il reste à 4 jours maintenant. Et ça supposerait que dans ce laps de temps, dans ces 4 jours, le régime ait trouvé en interne une solution alternative, même si elle est de très court terme, au moins pour sauver les apparences.
Pierre Vermeeren, une solution alternative, est-ce que on a vu à quel point il n'y a pas eu jusqu'à présent, dans des luttes de clans que l'on imagine féroces au sein de ce système dont il faut souligner encore une fois l'opacité, est-ce que sous la pression de la rue algérienne, le système lui-même va devoir se mettre d'accord sur une formule de transition?
Il va bien falloir sortir de la crise, effectivement. C'est difficile de contourner une population qui, par millions de personnes, descend dans la rue ou peut-être demain va faire une grève générale. On observe que sur les sites d'information qui sont quand même assez autorisés, hein, comme Tout sur l'Algérie, par exemple, enfin sur les journaux en ligne ou même dans El Watan, on commence à s'élaborer des scénarios de sortie de crise. Alors ce sont peut-être des ballons d'essai, on parle, un général à la retraite parle d'un conseil des sages, d'autres parlent d'un report des élections, on parle de scénarios de transition, de prolongation du mandat, le temps de mettre en œuvre une nouvelle campagne et des nouveaux candidats. Enfin bon, vous voyez, on commence à l'intérieur même du régime et aussi bien sûr par des gens qui sont un peu en marge à élaborer donc ces scénarios. Donc ils circulent, c'est difficile de savoir vers quelle direction on va. Mais de toute manière, il est clair que on s'approche de l'échéance. Il faut être extrêmement prudent parce que c'est souvent dans ces moments-là que les choses peuvent déraper. Hein. Il y a déjà eu des provocations lors des manifestations à Alger qui, heureusement, n'ont pas du tout été suivies par la population, qui est très vigilante. Hein. Je crois qu'il faut insister sur la pédagogie en creux qu'a constitué la tragédie syrienne, hein, qui est dans toutes les têtes du monde arabe, évidemment. Et puis on voit aussi arriver des candidats un peu fantasques. Hein. On parlait tout à l'heure de Monsieur Nekas, qui est très populaire, mais c'est vraiment une incarnation du populisme. On aime bien en chercher. Là, on en a trouvé, je crois, une qui est pas mal, en dépit de ses qualités et de son humour. Voilà. Donc, c'est quand les choses vont se déboucler que de nouveaux périls vont surgir. Mais Malheureusement, l'Algérie a une expérience. Elle a observé ce qui s'est passé dans tous les pays voisins. On a tous les scénarios de crise qui vont de la Syrie jusqu'au Maroc 2011. Donc voilà, hein, il y a une expérience très riche dans le pays et à l'extérieur. Tout ça a été observé par les Algériens qui aiment énormément la politique. C'est un peu très politique. Les gens ont eu le temps de discuter à l'abri de ce régime mystérieux qui les dirigeait depuis des décennies. Voilà, donc maintenant, c'est l'heure des choix. Et bien sûr, tout le monde va vouloir se prémunir contre l'aventure, mais rien n'est gagné.
Kader Abderrahim, on voit aussi que la diaspora algérienne, et en France en particulier, où elle est nombreuse, exprime aussi
sa solidarité.
Sa solidarité, bien sûr, et échafaude aussi des scénarios politiques.
Oui, oui, c'est vrai que la manière dont les Algériens de France ou leurs enfants, petits-enfants aujourd'hui se mobilisent est aussi... C'est assez étonnant de voir la résonance qu'il y a des deux côtés de la Méditerranée, singulièrement en France, avec des slogans qui sont repris, qui sont analogues, et en même temps la conscience, parce que il y a aussi aujourd'hui une population qui est issue précisément de cette guerre terrible des années 90 et qui a fui pour des raisons évidentes de sécurité et qui s'est installée ici un peu par dépit, parce que personne ne quitte son pays de gaieté de cœur, évidemment. L'exil est toujours une tragédie humaine. Et donc, aujourd'hui, ils sont assez conscients et assez lucides, peut-être les plus lucides, sur la nature du régime et sur les solutions politiques réalistes qu'il faudrait mettre en œuvre pour ne pas être trop déçus et surtout pour éviter les dérapages dont on parlait à l'instant.
Et bien sûr, de la part des officiels français, et on comprend pourquoi, ni indifférence ni ingérence, a dit le Premier ministre Édouard Philippe, et bien évidemment, on sait à quel point les relations franco-algériennes restent extraordinairement émotionnelles, sensibles, et on comprend.
Oui, oui, on comprend.
Et on souhaite cette forme de mutisme.
Je sais pas s'il faut le souhaiter. Moi, je suis toujours très frappé par la manière dont le personnel politique est culpabilisé par le régime algérien. C'est quand même assez extraordinaire. Quand on met cela
Politique français.
Français, pardon. Ouais. Quand on met cela en regard, on est ici dans une démocratie, dans un état de droit, et on reçoit des leçons d'un régime politique qui est contesté depuis son indépendance, puisque ses institutions ne sont pas légitimes. Elles sont pas issues des urnes. Elles sont pas populaires. Et donc, je trouve que la discrétion, pour utiliser un euphémisme, de la France est assez étonnant. Et quand on discute avec des responsables politiques français, ils disent oui, mais c'est l'Algérie, il faut rester prudent. Ouais.
On connaît les explications. Pierre Vermeiren, le mot de la fin, vous souhaiteriez, vous aussi, comme Kader Abderrahim, une expression un peu plus sincère?
Écoutez, elle est sincère dans une certaine ignorance et dans une certaine circonspection. Maintenant, il est clair que un tournant a été probablement pris hier et que le souhait d'une très grande partie, à mon avis, une très grande majorité du peuple algérien est d'avancer vers des institutions plus démocratiques. Je crois qu'il va venir le temps de le dire, oui.
Parfait. Eh bien, merci à tous de nous avoir éclairés sur ce qui se passe dans ce pays tellement proche de l'autre côté de la Méditerranée. Pierre Vermeiren, merci. Vous avez publié avec Khadija Mohsen Finan, dissident du Maghreb depuis les indépendances chez Belin en 2018. Merci à Kader Abderrahim, auteur de Géopolitique du Maroc aux éditions Bibliomonde. Razika Adnani, chez UP Publisher en 2017, Islam, quel problème, les défis de la réforme. El Mouhoub Mouhoud, vous avez publié L'immigration en France, mythe et réalité, c'était chez Fayard en 2017. Amel Boubeker, merci d'avoir été avec nous par téléphone d'Alger, vous avez publié avec Olivier Roy, Whatever Happened to the Islamists, c'était en 2012. Merci bien sûr à Eric Scholl, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation ce matin, Émilie Leu à la technique, Meryl Moneghetti et Marion Barsac ont préparé cette émission, et comme chaque samedi, vous avez maintenant rendez-vous avec Hervé Gardette. Passez un très bon week-end.